Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
Les roches métamorphiques et les roches magmatiques.
On a trois grandes familles de roches, les roches sédimentaires, les roches métamorphiques et les roches magmatiques.
Ici, on est dans le géoparc de la ferme de Tétis.
Il y a à peu près 300 échantillons de roches brutes que j'ai récoltées depuis plusieurs décennies moi-même. On est devant les roches métamorphiques. Alors bien sûr, les roches métamorphiques, on ne peut pas les avoir toutes dans un géoparc, c'est juste impossible. Il existe des roches métamorphiques d'origine magmatique comme d'origine sédimentaire. Le métamorphisme, en fait, c'est de la pression, il y a un contexte de pression qui fait monter de la température et ça transforme toute la structure et la chimie de la roche se transforme en fait. Et on fait apparaître de nouvelles roches. Il y a des histoires d'échelles de pression, d'échelles de température. Tous les contextes sont très singuliers à chaque fois, ils font apparaître des roches différentes. Donc les roches métamorphiques, il est impossible d'avoir un géoparc avec toutes les roches métamorphiques qui existent. Ce n'est pas possible parce que le moindre petit degré de différence de température ou un tout petit peu plus, petit peu moins de pression, ça donne plus du tout les mêmes roches en fait. Donc c'est très compliqué d'avoir toutes les roches métamorphiques, je crois que ce n'est pas possible en fait. Alors, on reste devant le panneau qui est ici. On a bien notre Pluton, là. Et autour de notre Pluton, on voit une sorte de ceinture marron. Eh bien, cette ceinture marron, c'est tout simplement les roches qui sont là. Elles ne sont pas contentes parce que les pauvres pierres autour, elles sont toutes écrabouillées. Résultat, ce qu'on voit autour de la poche de magma, là, c'est ce qu'on appelle un métamorphisme de contact. On est en contact direct avec un Pluton. Il existe plusieurs sortes de métamorphismes. Là, c'est le métamorphisme le plus facile à comprendre. Mais un métamorphisme, ça advient, c'est-à-dire la transformation d'une roche. Là, c'est cette roche-là qui s'est transformée à cause de la pression et de la chaleur apportée par la poche de magma. Donc, le métamorphisme, c'est une transformation. Par exemple, on imagine là, on imagine deux plaques tectoniques à la surface de la Terre qui bougent. Une plaque tectonique, elle bouge. Quand elle bouge, elle appuie dessous. Et si elle appuie, bah, ça fait monter la température. Donc il peut y avoir aussi un métamorphisme qu'on appelle un métamorphisme régional, qui peut être sur 1000 km, pourquoi pas. À partir du moment où ça bouge, ça fait de la pression, ça fait monter la température, les roches qui sont dessous, peuvent se métamorphiser. C'est un autre métamorphisme, c'est le métamorphisme régional. Il y en a bien entendu un autre, c'est le métamorphisme de la croûte océanique. Mais on ne va pas s'embarquer là tout de suite, d'accord? Parce que c'est un monde en soi, on pourra y revenir éventuellement plus tard. Alors là, on a vu comment se former le métamorphisme régional autour d'une poche de magma. Ce sont bien les roches autour de la poche de magma qui se sont transformées. Ok, on a un deuxième panneau là pour expliquer comment ça fonctionne, le métamorphisme. Donc là, on a le feu qui représente le Pluton, la poche de magma. Imaginons qu'il n'y soit pas encore là, il n'est pas arrivé. Là, le sol, c'est de l'argile. On va imaginer que tout ça, c'est de cette couleur-là. Allez, On va faire venir une cheminée magmatique. Elle arrive, elle rentre dans un sol constitué d'argile. La pression, quand la poche grossit, et la chaleur du magma vont modifier la chimie et la structure de l'argile. Et notre argile qui est là, ben, elle va devenir d'abord que du schiste. Et après, avec le temps, avec la poche qui grossit, ce schiste va à nouveau se transformer et va donner des micaschistes et des gneiss. Donc, à partir de l'argile, on va avoir des schistes, des micaschistes et des gneiss. Il y a d'autres pierres encore, hein, mais bon. Un autre exemple, si je barre l'argile, je suis obligée de barrer schiste, micaschiste et gneiss. Ok. On va mettre du calcaire à la place. On va dire c'est le fond de la mer. Le calcaire, c'est que des squelettes du peuple de la mer. Hein. Il faut bien qu'ils aillent quelque part quand ils meurent. On va imaginer que tout ça, c'est du calcaire. Tout ça, c'est gris. On fait venir la poche de magma. Elle grossit dans du calcaire. Avec la pression, eh ben en fait, les pauvres fossiles qui sont dans le calcaire, ils explosent, quoi. Il n'y a plus de fossiles, c'est fini. Voilà, donc pression plus température dans du calcaire, calcaire égale marbre. Un autre exemple, je ne sais pas moi, on enlève calcaire, on enlève marbre, obligé. On met du grès là, tout ça c'est du grès, ici on a des quartzites. Ça, c'est le béaba du métamorphisme, mais je veux dire le béaba, parce qu'il ne faut pas croire que ça s'arrête là. Puisqu'on a, on a une échelle pression-température avec une gradation, les roches métamorphiques, c'est comme les êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains, mais il n'y a personne qui se ressemble. On a tous notre caractère. Les roches métamorphiques, c'est exactement la même chose. Avec nos gradations de pression-température, on va à chaque fois avoir une roche singulière. Il suffit d'un petit demi-degré de différence ou un peu plus de chaleur et ça donne des roches différentes à partir de même roche de départ. Il y a même du rétro-métamorphisme. On peut même partir d'une roche, la métamorphiser et hop, on lui fait faire le chemin inverse et elle redevient ce qu'elle était avant. Ça existe ça aussi. Alors, ici, à partir du fil vert jusqu'au bout, là, on a les roches de la famille métamorphique. Tout à l'heure, devant les panneaux pédagogiques, on a vu deux panneaux sur les roches métamorphiques, dont un qui expliquait que si une poche de magma, donc un pluton, arrive dans de l'argile, l'argile, au départ, donnera du schiste, qui est là, et en grossissant la poche, tout près de la poche, le schiste nous donnera des micaschistes et des gneiss. Ils sont là. Il n'y a pas que ça, puisque nous avons une échelle, une gradation, donc il peut y avoir, ça peut beaucoup bouger. Mais bon, je donne trois exemples de roches métamorphiques à partir d'argile. Là, cette fois, on va faire rentrer une poche de magma dans du grès, les pierres à sable qu'on vient de voir sur le parcours de roches sédimentaires. Voici ce qu'on obtient quand la poche de magma rentre dans du grès. On va avoir des quartzites. Ici, c'est les quartzites autochtones de Lubaye. Lubaye, juste derrière les montagnes qui sont là, sachant qu'en géologie, la géologie se contrefiche des frontières étatiques. Donc là, on a la couleur du sable de la mer Tétis. Là, on avance, on va oublier les grès, on oublie l'argile, on oublie le grès. Et cette fois, on va faire rentrer du magma, une poche de magma, dans du calcaire, on a les marbres. Alors, je vais donner un truc super pour tous les humains curieux et amoureux de la nature. Partout où ils iront sur Terre, ils pourront reconnaître un marbre. C'est pas mal quand même. Les marbres, il y en a de toutes les couleurs. Des noirs, des jaunes, des bleus, des violets, des verts. On peut rencontrer des marbres de toutes les couleurs. Et partout sur la planète, quand vous allez faire une randonnée en montagne ou n'importe, vous pourrez reconnaître un marbre, car quelle que soit sa couleur, il y aura toujours en surface ce que moi, sculpteur, j'appelle des tonches. Des petites tonches, j'appelle ça. Ce sont des impacts d'autres roches qui viennent faire des marques blanches sur le marbre. Je dis bien des marques blanches que le marbre soit noir, vert, jaune, n'importe quelle couleur, il y aura toujours un impact blanc quand une pierre tape un marbre. Une pierre qui n'est pas un marbre tape un marbre. Si on regarde toutes les autres pierres, il n'y en a aucune qui ont des tonches, ce que j'appelle des tonches. Il n'y a que les marbres. D'accord ? Ça, c'est pour trouver des marbres. Alors, il y a une autre pierre quand même qui a tendance à marquer, ce sont les dolomies, celles avec lesquelles on fait la chaux dans le Briançonnais. Mais la dolomie, elle est très reconnaissable, elle est anthracite, quoi, gris anthracite, elle brille un peu, on ne peut pas la confondre avec un marbre, et elle, elle marque un peu en surface. À côté des marbres, là, on a ce qu'on appelle des ophicalcites, sachant que nous nous rapprochons à grands pas des pierres qui sont là, que l'on appelle des roches intermédiaires, ce sont les pierres du manteau supérieur. Donc là, on a les marbres et là, on a les ophiolites du manteau supérieur. Okay ? Entre les deux, entre les marbres et les ophiolites, on va avoir les ophicalcites. C'est en quelque sorte un mot valise pour expliquer que ces roches-là que l'on voit, les ophicalcites, sont des roches de la famille métamorphique, composées d'ophiolites et de calcites, élément principal du marbre. C'est ici qu'on va trouver les marbres verts. C'est ici qu'on va trouver les cipolins de la Motte en Champsaur, les blancs et le rose, magnifiques. Les carrières abandonnées, les roches d'œuvre.
Vous venez d'écouter Résonance Rocheuse par Aline Claire.